Et maintenant, Zoé Sfez, votre invitée, toujours sur le marketing politique, notamment en Amérique latine et les élections au Brésil.
Exactement, c'est Louise Favre, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en marketing électoral et en communication politique. Vous avez notamment travaillé sur plusieurs campagnes au Brésil, notamment des campagnes du PT, ainsi qu'au Pérou. Donc vous connaissez très finement les enjeux de communication politique. Et alors, cette campagne, on peut le dire, peut-être encore plus que celle qui a vu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, marque au Brésil et même dans le monde entier un vrai tournant sur l'utilisation à la fois légale, mais on va le voir aussi illégale, des outils numériques dans cette campagne pour remporter une élection. Alors, on l'a dit dans cette émission, Jair Bolsonaro n'est quasiment pas passé par les médias traditionnels pour faire campagne. Il a essentiellement beaucoup fait campagne, d'une part sur Facebook, où il était omniprésent, sur Twitter et par WhatsApp. Il a mené véritablement une campagne par ces biais-là. Il n'est quasiment pas apparu à la télévision. Il a refusé tous les débats télévisés qui lui étaient proposés. On ne sait toujours pas s'il va faire le fameux grand débat traditionnel de l'entre-deux-tours. Donc, une communication numérique, on va dire, assumée, légale, qui était déjà très présente. Et au fur et à mesure de cette campagne, notamment dans cet entre-deux-tours, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi probablement une utilisation illégale des réseaux sociaux et des outils numériques par lui, par son équipe et en tout cas par ses soutiens. Tout d'abord, on avait déjà une information qui avait commencé à sortir avant le premier tour, de l'utilisation de robots pour suivre le profil de Jair Bolsonaro sur Twitter. C'est-à-dire que parmi les followers, les gens qui suivaient Bolsonaro sur Twitter, on s'est rendu compte qu'il y avait, alors les pourcentages varient selon les estimations, mais probablement 20% de followers qui n'étaient pas des vraies personnes, mais plutôt des robots. De quoi s'agit-il exactement ?
C'est l'utilisation des machines pour envoyer des messages avec des faux profils de gens, et qui, derrière, il y a simplement une machine.
Alors ça, c'est légal ou illégal ? Ça, pour le coup, sur l'histoire
non, légal,
des faux profils.
Non, il est légal.
Ouais.
Et simplement, il y a escroquerie. Et la campagne de Bolsonaro, il n'est pas simplement porté sur le numérique et les réseaux sociaux, il est porté essentiellement sur les fake news, les mensonges, et une campagne non, où les autorités n'ont pas voulu prendre des mesures concernant précisément le développement d'une telle magnitude dans les mensonges politiques éhontés de sa campagne.
Alors oui, parce qu'effectivement, entre-temps, il y a eu le premier tour, il a obtenu 46% des voix, Jair Bolsonaro, et quelques jours après ce premier tour, la Folha de São Paulo, qui est un journal très important au Brésil, révèle une information très importante. On l'a dit, les groupes WhatsApp étaient très très importants. Il semblerait que plusieurs entreprises avaient financé des envois en masse de messages anti-Parti des Travailleurs, donc en tout cas des fake news même, anti-Parti des Travailleurs, sur WhatsApp avant le premier tour le 7 octobre. Donc clairement, on n'est plus sur simplement des groupes WhatsApp de partisans, on est sur véritablement des entreprises, alors que la question étant qui est derrière ces entreprises, qui ont récupéré des numéros de téléphone et qui ont véritablement orchestré cet envoi pyramidal. Pyramidal, c'est vraiment le terme, de messages sur WhatsApp. Comment est-ce que ça fonctionne et concrètement, que s'est-il passé? Que dit la Folha de São Paulo?
Oui, alors, comment ça fonctionne? C'est simple. WhatsApp, vous pouvez, une personne, il peut sur WhatsApp constituer 9999 groupes, chacun composé de 256
personnes
numéro téléphonique. Ça fait grosso modo 2 500 000 personnes qui seraient touchées par cette pyramide à partir d'un seul numéro téléphonique. Mais la législation électorale au Brésil, elle est assez claire. Ils ne peuvent participer de ces groupes que des personnes qui s'inscrivent volontairement dans ces groupes.
Voilà. Qui ont décidé de faire partie de ces groupes.
Voilà. Or, ce qui vient d'être découvert, c'est que des groupes étaient constitués à l'insu de ces personnes, et des agences spécialisées dans l'envoi de messages numériques par WhatsApp ou d'autres, Twitter, etc., étaient payées pour envahir massivement tout le réseau. On parle là probablement de 80 millions de personnes sur 140 millions de lecteurs.
Qui ont été touchés par ces messages.
Ils ont été touchés.
C'est un pourcentage énorme.
Oui, WhatsApp a été obligé par la suite, il y a deux jours, de suspendre 100 000 comptes et de bloquer les comptes de ces agences qui était à la base de ces envois. Et ce que la Folha de São Paulo a mis en lumière, c'est que chaque contrat où ces entreprises s'étaient engagées à envoyer de la propagande de Bolsonaro était payé 2,3 millions d'euros. Et on a recensé à peu près 150 entreprises ayant participé, donc chacune avec cette dimension. Or, Bolsonaro avait déclaré dans les dépenses électorales 1 700 000 réals, c'est-à-dire 300 000 euros. Et donc, il a un financement illégal de sa campagne électorale.
Donc tout ça, c'est donc de l'illégalité à plusieurs titres. D'une part, il y a un détournement de ce que WhatsApp permet, et en plus, il y a tout simplement une caisse noire, en réalité, du financement de la campagne de Bolsonaro. Oui. Donc cet argent-là, de l'argent, entre guillemets, sale, de l'argent qu'il n'a pas déclaré, qui a été utilisé, soit par lui, soit par ses soutiens, pour faire cette campagne sur WhatsApp.
C'est ça, mais en fait, il n'y a pas un détournement des règles de WhatsApp. Puisque WhatsApp a la caractéristique, et c'est pour ça qu'il a investi, je pense, sur WhatsApp, qui est un réseau fermé. Donc, les messages sont cryptographés au départ, et seulement la personne qui les reçoit, il peut les voir.
C'est pas comme Facebook, c'est ça.
C'est pas comme Facebook ou Twitter, donc qui sont publics. Et très important, la couverture télévisée de la campagne électorale a une influence très grande dans la façon dans laquelle les gens réagissent à l'information déturpée, c'est-à-dire aux fake news. Parce que si d'un côté il y a des fake news et de l'autre côté il n'y a rien...
C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que Globo, par exemple, n'a pas fait son travail en ne déminant pas des informations, des fausses informations qui ont été délivrées. Parmi par exemple, ces fausses informations, vous me donnez l'exemple de ces grandes manifestations de femmes qui ont eu lieu dans la rue contre la politique de Bolsonaro. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Alors, je vais donner deux exemples sur ces manifestations. Et à l'occasion d'une manifestation contre Dilma Rousseff, la télévision que vous avez mentionnée, Globo, qui est la principale chaîne du pays, a commencé ses émissions le jour de la manifestation, le matin, à 8h du matin, toute la journée en direct, couvrant les manifestations du Brésil, des Brésiliens.
Ça, c'était au moment des manifestations contre Dilma Rousseff. C'était avant l'impeachment, on ne parle pas de la campagne.
Maintenant, dans la campagne, où il y a eu ces manifestations des femmes contre Bolsonaro, et en particulier contre le caractère anti-femme de sa campagne électorale et de ses propos, ça n'a presque pas eu de couverture, malgré que c'est, de l'avis de tous les observateurs, des manifestations
historiques,
presque jamais vues des femmes dans le pays. Donc, au même moment que ces manifestations se déroulaient dans plusieurs villes du pays, et qu'il y avait très faible couverture télévisé de ces manifestations, Bolsonaro, avec des fakes, des photos fausses sur soi-disant cette manifestation, envoyait des millions de messages à des gens en disant « Regardez cette manifestation qu'il y a, c'est ça que vous voulez pour le pays ». Or, dans ces photos qu'il envoyait, c'était pas les manifestations qui se déroulaient qu'on voyait. On voyait des femmes nues, on voyait une débauche, disons, de la revendication des femmes, et comme la plupart des gens ne participent pas à des manifestations, et la seule information qui circule, qu'ils reçoivent en plus directement dans leur téléphone, c'est celle-là, effectivement, ça a produit une réaction, disons, bon, non, ça...
Et ça a vivement eu des conséquences sur sa popularité, puisqu'au lendemain de ces manifestations, Bolsonaro avait gagné des points, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse.
Exact.
Donc pour bien comprendre le rôle de WhatsApp dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant que cette affaire est sortie? Comment réagissent les institutions? Comment réagit le camp de Bolsonaro? Et comment réagit le camp de Haddad?
Le camp de Bolsonaro, il a simplement dit que lui n'est pas responsable. Lui-même, il a dit, moi je suis pas responsable de ce que les entreprises puissent faire ou ne pas faire. La législation ne les protège pas, y compris par rapport à cette affirmation. Mais l'institution du tribunal électoral est en crise, c'est évident. Il n'a rien fait pour empêcher le développement des fake news. Il ne va pas réagir. Et ça fait partie de tout le processus qu'on vit au Brésil depuis 4 ans là-dessus. Donc, ça m'étonnerait que cela aboutisse à quelque chose d'autre que peut-être une amende à une entreprise ici ou là.
Mais pour le coup, effectivement, alors il se trouve qu'entre-temps, le camp de Bolsonaro semble vouloir riposter en créant des groupes assez similaires qui, eux, sont des groupes pro-Haddad. Qu'est-ce qui se passe concrètement de ce côté-là, justement?
Oui, alors la campagne d'Haddad a émis une alerte sur le fait que si vous êtes inscrit dans des groupes et vous ne l'avez pas sollicité, il a demandé à que les gens se désinscrivent parce que ils ont détecté effectivement la tentative de
faire la même chose au nom d'Haddad,
voilà,
pour faire croire que lui aussi le fait.
C'est à peu près tout le monde pareil. Voilà. Or, tout le monde n'est pas pareil dans cette histoire.
Peut-être une question. Comment est-ce qu'on aurait pu empêcher ça, d'une part? Et d'autre part, vous me l'avez dit quand on a préparé cette émission, pour vous, contrairement à ce que disait Frei Beto tout à l'heure, qui disait on est dans une situation similaire à celle qui a vu l'élection d'Hitler, il a été élu démocratiquement. Vous me disiez, quand on a préparé cette émission, je considère que finalement ce n'est pas le cas, puisqu'on n'est pas sur une élection qui est légale, avec de tels, disons, moyens de mobiliser l'opinion, qui sont des moyens illégaux. Pour vous, est-ce que cette élection serait un scrutin légitime?
Cette élection se déroule dans des conditions assez particulières. Ils ont interdit les candidats les plus populaires du pays d'être candidats, malgré qu'il avait le droit. Il est incarcéré malgré que la Constitution devait le garantir d'être en liberté. Donc, en fait, déjà, cette élection se déroule dans un contexte très particulier.
Mais sur précisément cette utilisation du numérique.
Oui, mais ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que la situation qui a favorisé un peu le surgissement de ce phénomène Bolsonaro, c'est le fait que les partis des travailleurs, malgré n'avoir pas comme candidat Lula, et en ayant présenté un candidat qui était inconnu dans le pays, se trouve avoir élu les premiers groupes parlementaires dans ces élections au premier tour. Il a réélu au premier tour ses gouverneurs dans les États. Et comme il s'est perfilé pour gagner l'élection présidentielle, même malgré le fait que Lula n'était pas là, il a eu un effondrement de la droite qui s'est regroupé toutes ses électeurs derrière Bolsonaro. Donc cette polarisation qui existe dans les pays, il est produit du fait qu'il y a eu un échec évident des coups d'État qui a été monté contre Dilma Rousseff et que 3 ans après, voyait le PT éventuellement retourner au pouvoir.
Merci beaucoup Louis Favre. Je rappelle que vous êtes consultant en marketing électoral et en communication politique et que vous avez travaillé notamment lors de précédentes campagnes au Brésil, notamment pour des campagnes du PT, du Parti des Travailleurs.